Bonsoir. Allez, il est plus de 10 heures maintenant, faut vraiment aller se coucher, mon poutou chéri d'amour. Parce que tout le monde se couche. Pour dormir. Dormir, c'est pour être en forme le lendemain. Pour aller à l'école, par exemple. L'école, tu sais bien, c'est pour apprendre. Pour apprendre à lire. Je sais pas, moi, lire des histoires, des panneaux routiers, pour partir en vacances. Oui, mais là, on n'est pas en vacances. Demain, il y a école. Allez, zoup! Oui, je vais venir te raconter une histoire quand tu seras couché. Se coucher, c'est pour dormir, on vient de le dire. Je sais pas pourquoi on dort couché, pour se détendre, les chevaux dorment debout. Bah, ils dorment debout parce qu'ils ont quatre jambes. Non, on dit pas des pattes pour les chevaux, ça fait plouc, on dit des jambes. Un plouc, c'est personne, il faut pas dire plouc, c'est pas gentil. Oui, bah moi je l'ai dit parce que je me suis trompée. Non, je me suis pas trompée pour les jambes, je me suis trompée pour le plouc. Allez, zou, au lit maintenant! On dort dans un lit parce qu'on a la chance d'avoir un lit. On a de la chance parce qu'on a la chance de savoir que pour avoir de la chance, il faut savoir qu'on a de la chance. Oui, bah dors par terre si tu veux, mais va te coucher. Encore un pourquoi et je te bute, ok? Non, tu pourras pas le dire à papa parce que tu seras mort.
France Inter. État d'esprit. Noël Bréham.
Alexandre Jolien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez d'écrire « Vivre sans pourquoi ». Alexandre, vous êtes philosophe. On vous connaît pour vos livres au titre merveilleux comme « L'éloge de la faiblesse » qui vient de sortir en version bande dessinée chez Marabule. On vous connaît pour vos belles amitiés, Mathieu Ricard, Christophe André, avec qui vous avez écrit « Trois amis en quête de sagesse » chez l'Iconoclaste. On vous connaît pour votre humour. Vous vous tournez vers le ciel, vous croyez en Dieu, et vers vous, vers votre intériorité, vous croyez en vous, même si ce n'est pas tous les jours facile. Vous vous tournez vers l'homme pour y puiser de l'aide, Platon, Maître Eckhart, Spinoza, et puis d'autres maîtres plus vivants, plus proches, dont vous suivez l'enseignement. Dans ce dernier livre, donc « Sans pourquoi », publié chez Point Poche, vous racontez votre installation en Corée du Sud avec femmes et enfants. Vous racontez ce pays et vous, Alexandre, toujours en recherche de joie, d'amour, d'écoute, de paix, de guérison. Vous avez trouvé, Alexandre ?
Bien, j'ai surtout trouvé l'idée qu'on ne guérit pas et qu'il faut peut-être se guérir de l'idée de guérir. Autrement dit, la phrase de Nietzsche, il faut porter encore du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. J'aime bien cette idée. La grande santé, toujours Nietzsche, c'est pas d'être en pleine forme, d'être un champion olympique, mais c'est d'embrasser nos contradictions pour qu'il n'y ait pas une guerre civile en nous, pour qu'il n'y ait pas une tyrannie. Donc, la paix advient presque malgré soi et... Clopin, clopin, j'allais dire.
Clopin, clopin, Alexandre Jolien. Oui. C'est un peu la façon dont vous avancez, vous, clopin,
exactement,
clopin.
Exactement, physiquement d'abord, parce que j'ai un handicap de naissance, une élocution, comme on entend, un peu chaotique, et une démarche à l'avenant. Et aussi sur le terrain de la vie intime, on ne sort pas d'un tel... traumatisme sans quelques blessures, et le défi c'est d'en faire le lieu d'une joie justement qui danse, comme dirait Nietzsche.
Nietzsche, ça fait partie des lectures qui vous ont aidé ?
Moi je pense que j'ai plusieurs béquilles qui m'aident à tenir debout. Je suis croyant, et donc les évangiles, comme Maître Eckhart, me porte, mais aussi Nietzsche, en tant qu'il décape précisément les béquilles, les anesthésiens qu'on se propose pour tenter d'oublier la condition. Et je pense que ces deux inspirations font bon ménage.
Vous dites des béquilles, vous avez écrit dans ce dernier livre, Alexandre Jolien, « Vivre sans pourquoi ». J'aime cette phrase, elle est drôle. « Des bouquins, j'en ai avalé comme un camé cherchant fiévreusement un shoot pour se calmer ». Alors, ce sont des béquilles, ce sont des calmants.
Je crois qu'il y a une façon d'instrumentaliser la spiritualité, la méditation, la prière pour en faire une sorte de béquille précisément pour nous asphyxier, alors que la prière, la religion, c'est peut-être ce qui nous rend plus humains et par-delà toute utilité. Et c'est vrai que je suis un camé d'affection. J'en ai pas beaucoup eu quand j'étais enfant, encore que, et je recherche ça, et cette quête effrénée peut passer dans bien des trucs, comme des livres où on lit pour se guérir, et encore une fois, peut-être le premier pas, c'est accepter qu'il y a une part inconsolable en nous. Récemment, j'ai déménagé et il y a une amie qui est venue nous trouver et elle a dit « c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème ». J'ai beaucoup aimé cette phrase, il y a un manque affectif, il y a des dépendances, il y a des blessures, c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. N'en rajoutons pas par la culpabilité, le regret, la haine de soi, au contraire, le chaos peut être fécond s'il n'y a pas de lutte, de prise de pouvoir et de haine.
Donc ce chaos, ce bordel, il ne faut pas le cacher. Parce que souvent on essaye un peu de le planquer.
Exactement, et peut-être le premier pas c'est déjà être bienveillant envers ce champ de bataille intérieur. Il n'y a pas forcément besoin de grands champs de bataille, mais on est souvent tiraillé. Et juste voir qu'en nous, il y a des voix contradictoires, le besoin affectif, la raison, tout ça, la grande santé, c'est précisément introduire un peu d'harmonie et d'équilibre dans ce magma informe qui nous détermine bien souvent.
Nous allons écouter Alexandre Jolien Vianney. La chanson s'appelle « Je m'en vais ». On pourrait dire plutôt qu'il arrive avec juste ce deuxième album. Il en a vendu 50 000. Et ce Vianney, figurez-vous que demain, il aura 26 ans.
J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, ou diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne don, l'envie de m'éloigner de toi, et mes larmes, et mes armes, sont ma peine plus que la haine, et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. du long métrage. Où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Où tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais.
France Inter. Noël Bréham. État d'esprit.
Je m'en vais, chantait Vianney. Vous aussi, vous êtes parti, Alexandre Jolien. C'est ce que vous racontez dans ce Vivre sans pourquoi, édité au Point. Vous êtes parti pour Séoul avec femme et enfant. Dis donc, une ville de 10 millions d'habitants, pays du matin calme. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas?
Ben justement, la paix de l'âme, tout ce baratin que je récupérais de la spiritualité. Et je crois que le contact avec le réel, le contact avec un maître spirituel, a pour vocation de nous ramener ici et maintenant. L'idée, c'est de ne pas faire un drame de tout ce qui nous tourmente. Et c'est peut-être ça, la grande sainteté, ne pas se ériger en victime, ni même de faire un ennemi de la blessure, mais de composer avec tout ça, si c'est possible de s'en nourrir et de progresser vers l'amour de l'autre, vers le détachement, oui.
Bah ouais, mais Alexandre, j'ai l'impression que vous dites ne pas faire un drame, ne pas s'ériger en victime, ça on le comprend, parce que ça agace tout le monde et ça nous plonge dans la rumination. On est d'accord là-dessus. Mais en même temps, pour se débarrasser d'un problème quel qu'il soit, disons d'une épine dans le pied, il faut quand même bien l'identifier, la repérer.
Absolument, c'est toute la différence entre l'abandon et la résignation, ce qui empêche à agir, c'est la rumination.
D'accord.
Et quand on est invité à l'abandon, c'est au contraire abandonner cette part de prise de tête qui condamne. Quand vous loupez le train, si vous passez le quart d'heure suivant à dire « Putain, pourquoi j'ai loupé le train ?» J'aurais dit « Ça n'avance rien. » Le Zen nous apprend à prendre les dispositions immédiates pour choper l'autre train. C'est le contraire de la résignation. C'est de s'abandonner à l'instant présent pour être éminemment actif.
Je vois bien la différence. Ça sert à rien de dépenser de l'énergie en vouloir à la SNCF ici en France.
Oui.
Ça y est, le train est parti, c'est fait, c'est fait.
Ouais. Et déjà, repérer qu'on est souvent dans le commentaire intérieur plutôt que dans la vraie vie, j'allais dire.
C'est juste. Ça sert à rien de tomber assez vite, en plus, dans l'aigreur.
Dans l'aigreur, dans le regret, dans les passions tristes, comme dirait Spinoza. Quand j'étais à Séoul, j'avais un copain qui habitait près des quartiers chauds, où il y avait beaucoup de prostitution, et je voyais des gens qui attendaient, hésitant, devant les portes des prostituées. Et je me disais, la liberté, elle est peut-être là. On a une seconde où on peut choisir de succomber ou pas à nos passions tristes. Après, c'est trop tard, on est embarqué. Le cas de la prostitution, c'est extrême, mais c'est un peu pareil pour la colère, la tristesse. Il y a une fraction de seconde où on est encore libre d'aller dans le sens de la vie, alors que les passions tristes nous entraînent ailleurs. Et il faut bien prendre cette seconde pour dessiner notre liberté.
Quand vous dites, Alexandre Jolien, il y a une seconde pour effectivement aller consommer une travailleuse sexuelle, et une seconde aussi pour se suicider. C'est pas très long, hein, de sauter dans le vide.
Oui, et la colère, la tristesse.
Et la colère.
Et cette prise de conscience à la fois déculpabilise en nous montrant qu'on n'est pas toujours les maîtres à bord, mais dans le même temps, ça nous donne une sorte d'énergie pour être déterminé à pas louper ces minutes précieuses où on a encore une fois.
Et une seconde aussi pour dire quelque chose qu'on regrettera. Une seconde pour dire un mot, on se dit non, pourquoi je lui dis ça, mais pourquoi ? Trop tard.
Oui, d'où l'importance de placer la paix au cœur de notre vie quand nous sommes tiraillés par le stress. Et c'est pas fleur bleue. Au contraire, je crois que c'est une réaction contre la pente naturelle qui nous pousse vers une certaine passivité et la générosité. Ça se s'acquiert par des actes concrets.
Alexandre Jolien, vous avez du succès avec vos livres. Ils sont bien écrits, ils sont drôles, ils sont cultivés. Mais aussi parce que ce que vous ressentez, ça parle à tout le monde, parce que tout le monde le ressent. Et pourtant, vous le dites, vous avez une particularité, puisque vous avez du mal à marcher, vous avez du mal à vous exprimer. Et cette particularité, ce handicap, disons les choses comme elles sont, c'est énorme dans votre vie, la place que ça prend.
J'ai un handicap assez lourd. Et ma chance, c'est grâce à des amis, grâce à ma femme, mes enfants, de commencer à le comprendre comme une sorte de laboratoire. Autrement dit, le rapport à autrui, la moquerie, la peur, la peur de claquer, c'est des trucs que je me ramasse plein la figure. Et c'est l'occasion de voir comment, justement, essayer de découvrir au sein du chaos, un peu de paix, de joie. Et je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans cette expérience du handicap qui ouvre des portes vers l'autre. Justement, face à la souffrance, on peut se claquemurer dans sa singularité ou, au contraire, essayer de voir ce qui nous rapproche de l'autre pour sortir de l'égoïsme qui est mortifère.
Alexandre Jolien, écoutons si vous voulez bien un extrait d'un film drôle sur le handicap, Intouchable, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano en 2011. François Cluzet est paralysé et il a décidé d'engager un aide qui ne plaît pas à son entourage.
Tu m'as convoqué, alors ben, je suis là.
Hein. C'est qui ce type ? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Yvonne me dit qu'il est inconscient. Violent ? Il a frappé un voisin ? Enfin, Philippe, c'est pas à toi que je vais expliquer qu'il faut être vigilant. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état.
Vas-y, continue.
J'ai eu Sivou, à la chancellerie. Alors c'est pas Messrine, mais t'as quand même un petit casier bien rempli, ton Driss. Il vient de faire 6 mois pour le braquage d'une bijouterie. Fais attention, les gars des cités, ils n'ont aucune pitié.
C'est exactement ça, c'est ce que je veux. Aucune pitié. Souvent, il me tend le téléphone, tu sais pourquoi ? Parce qu'il oublie. Alors c'est vrai, il n'a pas spécialement de compassion pour moi. Seulement, il est grand, il est costaud, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. Alors tout le reste, hein, maintenant, aujourd'hui, dans mon état, comme tu dis, d'où il vient, ce qu'il a fait avant, je m'en contrefous.
Et cette aide, c'est Omar Sy. Mais vous aussi, vous avez un aide ?
Oui, bien sûr, et je trouve que ce film a ouvert beaucoup de voies. J'avais très peur d'aller le voir parce que c'est un film où on évoque la question du handicap, mais je crois que c'est pas l'essence du film. L'essence du film, c'est une légèreté, une solidarité, un état d'esprit. Et donc, oui, cet humour pour accueillir l'adversité dans la solidarité. On voit bien comme les deux protagonistes se complètent, s'enrichissent et s'allègent. Il y a Swami Prajnampad qui disait « Aimer quelqu'un, c'est l'aider à relâcher ses tensions ». Je crois qu'il n'y a pas plus grand amour que de relâcher les tensions de l'autre. Et oui, grâce à un aide, grâce à ma famille, je peux vivre bien.
Aimer quelqu'un, c'est relâcher ses tensions. On devrait y penser tous les jours. Je vais le marquer sur mon frigo.
Alors, quand on est détendu, au sens profond du terme, On ne peut pas être dans l'agressivité, dans la méchanceté. On ne peut pas fonctionner sous le mode de Donald Trump quand on est totalement dans la paix. C'est une contradiction. Ouais. Dans le film, c'est pas de pitié. Parce que quand il y a la pitié dans une relation, qu'elle soit avec une personne handicapée ou non, il y a un sentiment de supériorité. Donc on croit être touché par le malheur de l'autre, mais on l'installe se faisant dans le rôle de handicapé ou d'inférieur. C'est très dangereux, la pitié. D'ailleurs, il y a un roman de Zweig, La pitié dangereuse. Ça dit bien cette réalité, la prise de pouvoir sur l'autre. On se souvient des dames patronesses. Non, quand on aide les autres, est requis une certaine gratuité.
La pitié est donnée à quelqu'un d'inférieur.
Ben, si je dis à mes enfants, tu me fais pitié, est-ce que c'est différent Spinoza montre bien, quand il distingue la compassion de la pitié. Dans la pitié, ce qui est premier, c'est la tristesse. Je vois à la télé des gens crever de faim. Ça m'attriste parce que ça me rappelle que moi aussi, je peux subir le même sort. Dans la compassion, ce qui est premier, c'est l'amour. J'aime l'humanité et secondairement, je suis frappé et touché quand quelqu'un souffre. C'est très différent, les deux registres du rapport à l'autre.
Vous avez tellement raison, Alexandre Jolien. Vous citiez les enfants. Alors, vos enfants sont évidemment de la génération suivante des miens. Les miens, à un moment donné, je crois que cette expression est passée maintenant. Il y avait cette expression qui disait « tiep, fais tiep ». Fais tiep, ça veut dire pitié, hein, ouais. À l'envers. Ouais. Et, mais c'était extrêmement péjoratif. Ouais. Et tu fais tiep, ça voulait dire, mais t'es nul de chez nullissime. C'était péjoratif. Elles font pas tiep, nos Brigitte.
Superstar, j'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Sortez de l'art et les bijoux,
mettez-vous à genoux.
Dans la jaguar, dans la gadoue, mettez-vous à genoux, toi mon tout mon loupard. C'est mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour.
De quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling et que le meilleur gagne sur le ring.
Toi mon tout mon loupard, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir. Maintenant
Noël Bréham, État d'esprit, sur France Inter.
Avec vous, Alexandre Jolien, ce soir, pour ce dernier livre, Une vie sans pourquoi, nous venons d'entendre les Brigitte. Je dis les Brigitte, je crois qu'on dit Brigitte tout simplement, mais peu importe, parce qu'en fait, si elles se sont appelées les Brigitte, qui chantent « On a tellement besoin d'amour », vous aussi, vous l'écrivez à longueur de livre, Alexandre Jolien, et c'est pour ça que ça nous parle, parce que nous aussi, nous avons tous tellement besoin d'amour. Les Brigitte, c'est Brigitte Bardot. Cette Brigitte Bardot qui est la beauté faite femme, le charme faite femme, là, le naturel, l'intelligence. Eh bien, elle a une vie amoureuse vraiment douloureuse. Sa mère a été déséquilibrée, ne l'a pas rassurée, ne l'a pas dorlotée, elle n'a pas eu de chaleur humaine. Et elle a toute sa vie couru après cet amour qui ne lui a pas permis de se construire. Brigitte Bardot. Il n'y a pas que vous. Vous voyez, vous vous dites, moi j'étais handicapée, mais Brigitte Bardot, c'est le contraire d'une handicapée. C'est un corps, mais pouf, une bombe.
Ça montre bien que les blessures ne sont pas toujours là où on croit. Et que finalement, une vie sans blessure n'est peut-être pas possible. D'où la nécessité de développer un art de vivre pour accueillir ça. Le regard d'autrui. Mais dans le bouddhisme, il y a cet exercice d'avoir une conscience nue. Par exemple, quand le matin on se regarde dans le miroir, être sans aucun commentaire. Alors que dans le miroir, le matin, on se réveille, putain, la sale gueule que t'as aujourd'hui, t'as pas bien dormi. On est perpétuellement dans le commentaire, jugement. Le jugement, merci, sur l'autre et sur soi. Et se dépouiller de ça pour accueillir l'expérience sans conceptualiser à outrance, c'est une liberté immense.
J'imagine, hein. Et ça, vous y êtes arrivé par quoi ?
Ben, la méditation nous aide déjà à voir qu'incessamment on est dans un cinéma intérieur. Pourquoi il a dit ça de moi ? Pourquoi ? Et déjà repérer ce voile qui s'interpose entre nous et le monde.
Alors, je continue avec mes Brigitte. Ça, c'est donc la Brigitte Bardot avec ce corps de rêve qui souffre du manque d'amour. La deuxième Brigitte, c'est la Brigitte Fontaine. Vous venez de parler, Alexandre Jolien, du regard de l'autre. Brigitte Fontaine, vous voyez le look qu'elle a ?
Absolument.
Elle est marrante et on a l'impression qu'elle est complètement indifférente au regard de l'autre. Et en même temps, quand on est dans la provocation comme elle l'est, est-ce que finalement... C'est pas aussi dépendre du regard de l'autre, pas pour s'y conformer, mais pour un peu dire « regardez, je m'en fous ». Mais de dire « je m'en fous », ça veut dire qu'on s'en fout pas.
Absolument. Être dans la provocation, c'est d'une part être déterminé par le regard de l'autre qu'on souhaite précisément provoquer. C'est difficile de trouver un délicat équilibre. Pas se dire « je m'en fous du regard de l'autre », c'est à quelque part s'opposer à lui et lui donner une place essentielle dans ma vie. Donc la question notamment du regard de l'autre est infiniment plus subtile que des postures radicales adoptées une fois pour toutes. C'est bien subtil. Certains jours, on est terrassé par une remarque de travers, tandis que d'autres se sentent plus libres. Et on ne peut jamais s'installer, c'est ça qui est bien dans la vie, dans quelque posture que ce soit. Il s'agit d'accueillir avec les forces du jour ce qui se présente. Le rapport au corps, à la sexualité notamment, je trouve un chantier essentiel de la vie spirituelle, alors que malheureusement c'est tabou. Et plus c'est tabou, plus on est amené à une vie clandestine, alors que l'affectivité c'est une chose essentielle dans la vie.
Je vous remercie d'avoir évoqué la sexualité parce que je voulais vous parler de la troisième Brigitte, qui est Brigitte Lahaie, qui est une fille remarquable d'intelligence, de sensibilité, de culture, de dons, d'écoute. Elle parle de sexualité, de corps, parce que c'est quelque chose qu'elle connaît. Mais Elle connaît l'âme humaine infiniment. Et comme vous, elle ose parler de sexualité alors que les gens n'osent pas. Surtout quand on est philosophe, vous écrivez noir sur blanc dans ce « Vivre sans pourquoi ». Quand je suis pris d'une pulsion sexuelle, c'est pas confortable. Aucun philosophe n'ose dire ça.
Oui, pourtant, c'est quelque chose qui nous constitue. La sexualité, le rapport à l'autre, le besoin d'affection, c'est quand même des trucs...
qui nous concernent tous.
Et qu'on pourrait essayer de combler à bas prix. Notre besoin infini d'affection, enfin pour ma part, j'en suis là, eh ben, doit être pris en charge, j'allais dire, mais plutôt prendre soin de ce besoin sans que ça devienne tyrannique. Il y a un besoin d'affectivité, peut-être de sexualité, comment accompagner ça en douceur, sans que ça devienne le centre de notre vie.
Et pour ça, la spiritualité aide.
Et les amis dans le bien, et la rencontre authentique avec ma femme. Mais oui, finalement, toutes les rencontres nous nourrissent. Et justement, si on est obsédé par l'idée de conquête, de séduction, c'est insatiable. Alors qu'il me semble que dès lors qu'on a accepté qu'une partie de nous est inconsolable, la relation à l'autre est gratuite. La confiance en la vie, c'est une ouverture du cœur qui se décide pas. On peut pas décider de majorer confiance en la vie. Tout au moins, on peut déjà essayer de voir ce qui... Dans les faits, la gratitude ouvre la voie à la confiance. Si on voit tout ce qu'on reçoit ici et maintenant, ça peut être tout con, un bon repas, mais encore une amitié, la chance d'être en vie, la chance d'avoir des enfants.
Voir ce qui va bien, pas
oui,
voir ce qui va pas.
La méfiance, la défiance envers soi-même, c'est une obstruction du regard.
La gratitude, nous allons en parler. J'adore Alexandre Jolian parce que, avec votre élocution, quand vous avez dit ouverture du corps,
oui.
Je me suis demandé si c'était du corps ou du cœur.
Oui,
c'est
hésité.
Proche, hein?
Ouais. J'ai hésité.
Ah, vous avez hésité, c'est pour ça oui, que je me suis dit. Bah, les deux sont bons.
Oui, exactement.
Le corps et le cœur.
Plus ce corps est détendu, plus ce cœur est apte à aimer et vice-versa, je crois.
Alors, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Merci Simone, c'est Stieg Dagerman.
Who find remorse? A change of course, a strange discord resolve. I need soothing. My lips aren't moving. My God is bruised.
Vous avez aimé cette voix, Alexandre Jolien, c'est celle de Laura Marling qui chante So Thing.
État d'esprit sur France Inter.
Vous nous avez dit, Alexandre Jolien, que la méditation vous aidait à vivre, tout simplement. Cette méditation dont on parle beaucoup, vous n'êtes pas le seul, ne plaît pas à tout le monde. Écoutons Luc Ferry qui était à ce micro il y a quelques semaines.
Cette idée qu'on parviendrait en ouvrant les chakras, en souriant trois fois par jour et en prenant son corps comme un violon, qu'on arriverait au bonheur comme on arrive à un état stable après une traversée difficile en mer, est une idée mensongère, illusoire, dangereuse et, j'allais dire, pathologique, pathogène. Ça nous rend malades, ça rend les gens malades.
Alors, je vais vous demander plusieurs choses, Alexandre Jolien. D'abord, je vais vous demander de répondre à Luc Ferry. Et puis ensuite, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que vous évoquez dans votre livre et qui est tellement important, se défaire de la volonté d'avoir raison. Mais d'abord, que répondriez-vous à Luc Ferry ?
Mais moi, je crois qu'effectivement, il y a un danger d'instrumentaliser la méditation et la philosophie aussi et la spiritualité, pour en faire une négation du tragique. Je pense que la vie est éminemment tragique, qu'on n'y échappe pas, qu'il y a une souffrance du corps, qu'il y a une douleur de ne pas être aimé. Le monde n'est pas organisé autour de notre nombril, et tant mieux d'ailleurs, ça serait encore plus le bordel que maintenant. Raison de plus, il faut s'engager dans une ascèse pour contrer cette pente naturelle de l'esprit que d'aller dans la rumination, le regret, d'où l'intérêt de la méditation qui est encore une fois pas une béquille.
C'est pas un truc.
Non, malheureusement, comme tout est récupéré, il y a une récupération de la méditation qui en fait un produit marketing parmi d'autres, qui se détache du fond spirituel auquel il doit être relié.
Et moi je rajouterais, et qui nous gave aussi un peu par le nombre des vocations de la méditation.
Oui. Mais bien sûr, mais on médite pas pour faire son bonheur dans son coin pépère, on médite pour être davantage humain, davantage lié à l'autre, davantage dans une humanité qui est difficile, qui est âpre, qui est rude. C'est pas du bisounours que de méditer, mais au contraire, une tentative de relever le voile de l'ignorance, la brume mentale qui nous empêche de vivre dans le monde enfermé que nous sommes dans notre monde.
Merci pour cette réponse à Luc Ferry. Parce que moi, si j'avais eu le temps, je leur aurais dit « Mais non, c'est pas du tout comme ça, parce que la méditation, ta-ta-ta-ta-ta. » Et je lui aurais dit à Luc Ferry qu'il avait tort et que j'avais raison. Pourquoi voulons-nous toujours avoir raison, Alexandre Jolien, et vous évoquez dans ce livre se défaire de la volonté d'avoir raison?
Justement, il y a une crispation autour de l'ego, comme si on se sentait infériorisé, mis en danger parce que l'autre pense différemment que nous. Mais comme disait Épicure, en gros, si l'autre n'est pas d'accord, il nous offre un cadeau, soit de remettre en question une idée fausse, soit d'approfondir la connaissance du vrai. Donc le dialogue sincère, authentique et un exercice spirituel, c'est en fréquenter que les êtres qui pensent comme nous, ça serait mortifère à nouveau.
C'est ce qu'on fait tous. On ne fréquente que des gens qui pensent comme
c'est
nous.
C'est ce qui est affreux dans Facebook. On propose des amis maintenant en fonction du domaine d'intérêt qu'on semble montrer par nos choix. Autrement dit, on va bientôt nous prédisposer à aimer ce qu'on aime déjà dans la rencontre avec l'autre. Au contraire, s'ouvrir à l'inconnu, voyager intérieurement, s'ouvrir au risque de la rencontre et de la remise en question, c'est quelque chose qui nous enrichit.
C'est intéressant ce que vous soulevez là, Alexandre Jolien, parce que par exemple, dans une émission de radio, quand on fait une programmation musicale, on essaie de panacher, de donner aux auditeurs ce qu'ils connaissent déjà. Parce que ils vont retrouver une musique, un disque qui leur rappelle à quelque chose, un bon moment, une musique qu'ils aiment. Donc on va les accrocher avec ça. Mais si on leur donne que des choses qu'ils connaissent déjà, on leur fera jamais rien découvrir. Donc on veut aussi être une radio qui fait découvrir. Donc il faut panacher du neuf, qui déplaît parfois, surtout la première fois, et puis du déjà connu. Est-ce qu'on fait pas la même chose avec les idées?
Absolument. Ce qui m'a frappé en habitant Séoul, c'est que les mêmes tubes que j'entendais là-bas, je les entends ici,
ah bon,
tourner en boucle. Je l'entendais pareillement en Europe, en Suisse, au Canada ou ici. Et cette mondialisation du goût à quelque chose d'aliénant, quelque part, à réhabiliter un pluralisme, une diversité, oui.
Surtout que voyager, vous êtes allé loin quand même, vous, pour être avec un maître spirituel, mais quand même, voyager, c'est chercher la différence.
Et quand j'étais à Séoul, on ne connaissait pas François Hollande, mais Thierry Henry, Zidane, et ça m'a vachement fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on exporte de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on donne à connaître à travers le monde? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mondialisation d'un goût unique?
Alors vous allez à Séoul, Alexandre Jolien, et on connaît Zidane. Moi, quand j'étais jeune et que j'allais aux États-Unis, la France, ça se disait absolument rien à personne. En revanche, Paris, Pigalle, les filles.
C'est rigolo. Ouais. Je suis venu avec un Coréen aujourd'hui à Paris et il m'a demandé qu'on aille voir Pigalle. Donc, ça n'a pas beaucoup changé.
Vous noterez qu'on reste dans le corps, c'est-à-dire Zidane, le foot, les filles, le sexe. Vous disiez que vous aviez souffert, Alexandre Jolien, d'avoir justement un corps qui n'était pas très performant. C'était une grande souffrance et on peut l'imaginer. Est-ce que vous arrivez à imaginer un jeune homme, musicien, qui a été parmi les 50 plus beaux hommes du monde et qui disait souffrir de cette beauté parce qu'il voulait que son talent soit dans sa musique et pas dans sa beauté physique. Jeff Buckley est mort noyé, il avait 30 ans.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.
État d'esprit sur France Inter.
Vous aimez Alexandre Jolien cet Alléluia,
oui,
de Jeff Buckley?
Et ce que vous avez dit sur sa beauté, ça me parle beaucoup. Parce que moi, j'ai aussi l'illusion que si j'avais eu un beau corps magnifique, la vie aurait été plus heureuse. Alors que ça peut être une souffrance d'être stigmatisé. y compris pour sa belle apparence physique.
Alors vous êtes allé, Alexandre, pendant la chanson, regarder sa photo. Effectivement, il est beau gosse. On sent que ça n'a pas été pris par sa grand-mère, hein. Ça a été pris par, par sa maison de disques, donc elles, ce sont des bonnes photos aussi. Hein. Donc Jeff Buckley qui chante Alléluia, chanson de Leonard Cohen, ça me fait penser quand même, avant de se séparer, on n'a pas tellement parlé de spiritualité, Alexandre Jolien, alors que c'est ce sur quoi repose votre vie tout de même.
Mais on l'a évoqué parce que toutes ces questions de regard de tri, de rapport au corps, la façon dont j'appréhende le chaos en moi, c'est une manière de descendre au fond du fond pour y trouver un appel, si on est croyant, à la transcendance. C'est le terreau sur lequel on va essayer de parfaire son existence et tendre à devenir plus généreux.
Est-ce que vous croyez, Alexandre Jolien, au mystère? Ou est-ce que vous savez à peu près ce qu'il y a ailleurs ou... Vous savez pas.
Je crois en Dieu. Maintenant, quand on a dit ça, on a beaucoup dit et rien dit. À mon avis, je trouve très dictatorial de parler au nom de Dieu et de se prononcer. Je préfère être, j'allais dire, au service de Dieu. Mais modestement, servir Dieu, c'est peut-être se maintenir dans la joie et sortir peu ou prou de notre égoïste, ça fait grandir le camp, c'est plutôt une invitation à la simplicité, pas saisir le mot Dieu, et Maître Eckhart avait cette prière, Dieu, libère-moi de Dieu. Autrement dit, allons au-delà de nos conceptions de Dieu pour se tenir disponible à la transcendance, qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut en dire.
Alexandre Jolien, le prétexte de cette invitation, c'est ce dernier livre, « Vivre sans pourquoi, itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée », qui est aux éditions Point Poche. Vous êtes parti pour Séoul avec femme et enfant en Corée. Vous y avez passé 3 ans. Maintenant, vous êtes rentré. Cette énorme ville de 10 millions d'habitants qui est Séoul, vous dites que les gens y sont justement assez spirituels. Qu'avez-vous rapporté justement de là-bas au niveau de la spiritualité?
Une certaine fluidité, de nouveau, comme disait le Bouddha, en substance, dès lors qu'on se fixe sur une image de soi, on pourrait dire qu'on souffrait. De nouveau, accepter que tout change, danser avec l'impermanence, c'est aussi tenter d'aller vers la non-maîtrise. La non-maîtrise, c'est à nouveau pas une démission de la volonté, mais au contraire, comme disaient les stoïciens, faire le départ entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Et pour œuvrer pleinement et consacrer notre énergie au chantier qui mérite d'être encouragé. Oui.
Avant de nous séparer, Alexandre Jolien, j'aimerais vous faire écouter un extrait du film d'Anne Dauphin Julien. C'est un documentaire qui vient de sortir dans les salles et les Mistral gagnants. Elle était au micro de Léa Salamé et elle nous parle de ces enfants malades qu'elle a filmés.
Ce qui est incroyable chez ces enfants, c'est que quoi qu'il arrive, quelles que soient leurs circonstances de vie, le bonheur se faufile dans n'importe quel petit interstice, dans le lit rocailleux de leur vie. Et surtout, ils ont quelque chose qu'on a tous eu quand on était petit, c'est qu'ils ont une vision instinctive de la vie. C'est pas des grands sages, c'est pas des innocents qui ne connaissent rien à la vie non plus, ils vivent pas dans le monde des bisounours, hein. Ils savent que la vie est difficile. Mais à la fois, ils ont accepté leur vie dans la globalité avec cette fierté de se dire quoi qu'il arrive, c'est ma vie. Et du coup, ils arrivent à vivre chaque instant comme il est.
C'est quoi votre devise, allez-y?
Quand on peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour.
C'est un petit peu ce que vous dites aussi, Alexandre Jolien?
Et oui, et c'est de sagesse que les enfants nourrissent et ont dans leur cœur, ça pourrait être des guides. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des enfants?
Merci Alexandre Jolien. Merci. Vous avez 3 enfants. Bon, ils ont quel âge?
12 ans, 10 ans et 6 ans.
On vous retrouve, Alexandre Jolien, dans Vivre sans pourquoi, chez Point Poche, l'éloge de la faiblesse, le livre d'origine, et puis l'éloge de la faiblesse en bande dessinée. Les deux sont chez Marabout, Marabulle pour les bandes dessinées. Et puis, ce livre chez l'Iconoclaste avec Christophe André et Mathieu Ricard, trois amis en quête de sagesse. Les autres sont sur le site d'État d'Esprit. Merci Alexandre.
Merci à vous.
Dimanche prochain, avec Vincent Després, nous parlerons des animaux. Qui sont les animaux? Vous pouvez télécharger cet état d'esprit et bien l'écouter quand vous voulez ou bien le partager avec vos amis. Merci à Simone de Poux pour sa réalisation, à Muriel Pérez pour sa jolie programmation musicale. Merci à Raphaël Rousseau pour sa prise de son. Cette émission a été préparée par Fanny Leroy et Emmanuel Fournier. Après les informations, Brigitte Patient dans Regardez voir vous emmènera en Russie.